Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver à l'écoute de Radio Vatican. Dans la matinée du vendredi, le pape François a reçu en audience la Fédération italienne de jeux de dames. Dans son discours, il les a invités à maintenir vivants les moments de spiritualité associés habituellement aux événements les plus importants organisés par la Fédération. Le Saint-Père a également rencontré vendredi au Palais apostolique le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon. Nous y reviendrons de l'actualité de l'Église qui nous conduira aussi au Burkina Faso. Dans le cadre de sa tournée ouest-africaine, le président du Conseil européen, Charles Michel, a effectué une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire, au cours de laquelle plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués avec le président ivoirien Alassane Ouattara, notamment la lutte contre la migration irrégulière et le terrorisme. Nous en parlerons de l'actualité sociopolitique africaine, qui nous conduira entre autres en Éthiopie et au Tchad. Notre invité du jour sera le père Louis-Bernard Tebi, président de l'Union fraternelle du clergé ivoirien, et nous terminerons cette édition par le magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition.
À Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Dans la matinée du vendredi, le pape François a reçu en audience la Fédération italienne de jeux de dames, fondée en 1924 à Milan par Luigi Francioni et d'autres associés. Soulignant que le jeu de dames demande de l'intelligence, des compétences et de l'attention, mais pas de grands moyens ni de grandes structures, François a précisé qu'il fait en effet partie de ces jeux avec lesquels, où que vous soyez, vous pouvez facilement créer un moment de rencontre et de divertissement, telle une façon agréable d'être ensemble. Face donc à l'importance que le jeu de dames revêt, particulièrement pour les migrants qui arrivent sur les côtes, a-t-il fait remarquer, le pape a invité à multiplier ces moments de rencontre dans un monde caractérisé par l'individualisme qui risque parfois de se transformer en isolement. Cela fait circuler un air pur et frais. Terminant son discours, François a encouragé à maintenir vivant les moments de spiritualité associés habituellement aux événements les plus importants organisés par la Fédération. Le Saint-Père a également reçu en audience vendredi au Palais apostolique le président de la République du Tadjikistan, Emomali Rahmon, qui a ensuite rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège, accompagné de Mgr Paul Richard Gallagher, secrétaire pour les relations avec les États et les organisations internationales. Au cours de l'entretien cordial qui s'est déroulé à la secrétaire d'État, les bonnes relations entre le Saint-Siège et le Tadjikistan ont été soulignées et certains aspects de la situation politique et socio-économique du pays ont été abordés. Une attention particulière a été accordée à l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les peuples et les cultures pour la promotion de la paix et de la stabilité dans le monde. Rendons-nous à présent au Burkina Faso où les évêques et prêtres des 15 diocèses du pays ont tenu du 23 au 26 avril leur 32e assemblée de la fraternité sacerdotale. Les précisions de notre correspondant Paul Da.
Prêtres de Jésus-Christ en marche vers les 125 ans d'évangélisation, mémoire, défis et perspectives pour un renouveau sacerdotal. C'est autour de ce thème que 262 prêtres et évêques des 15 diocèses du Burkina ont tenu la 32e Assemblée générale de la Fraternité sacerdotale du 23 au 26 avril courant à Ouagadougou. Des conférences, carrefours et ateliers de réflexion ont permis aux participants de redécouvrir l'identité sacerdotale à travers les figures sacerdotales pionnières, mais aussi de discerner les nouveaux défis de la vie et du ministère des prêtres après 125 ans d'évangélisation. Partant, ils ont défini des points d'ancrage pour un ministère sacerdotal encore plus crédible et fécond et dégagé des pistes pour le renforcement de la fraternité sacerdotale en intégrant les valeurs de la diversité, de l'autorité et du respect des aînés. Au terme de cette 32e Assemblée générale, l'évêque chargé du clergé, Mgr Prosper Bonaventure, qui apprécie.
Ces jours ont été des moments vraiment de grâce. En repartant chacun chez soi, c'est avec des recommandations et des résolutions fortes pour une fraternité toujours plus vivante et un témoignage toujours plus vrai du Christ. Je souhaite donc que chaque prêtre soit un repère pour tous ceux qui s'approcheront de lui.
Paul Dawagadou pour Radio Vatican.
Organisé depuis 2009 par la maison d'édition L'Armaton Guinée, l'événement Les 72 heures du livre s'est tenu une fois de plus dans la capitale Conakry où, pendant 3 jours, la culture de la lecture a été mise en évidence. Cet événement a rassemblé les auditeurs et éditeurs, mais également les lecteurs venus de plusieurs pays du 23 au 25 avril 2024. Notre correspondante Joannita Scholastic nous en a fait le compte rendu.
C'est parti pour la 16e édition des 72 heures du livre, tenue chaque année depuis 2009. Pour cette édition, le thème retenu est la littérature et le sport. Un choix, pas fortuit. Il faut un esprit sain dans un corps sain. Cet événement rassemble les personnes venues de divers horizons et connaît la participation d'un pays invité d'honneur, le Cameroun, de la France comme pays invité de marque. Et la ville invitée d'honneur pour cette année est Dinguiraï, une ville située à plus de 509 km de la capitale Conakry. Des débats, expositions, dédicaces de livres pour les passionnés sont mis en avant. L'événement dirigé par Sansi Kaba Diakité a pour objectif de mettre en œuvre la promotion du livre et la visibilité de ses auteurs. Mais d'énormes difficultés sont rencontrées, notamment la jeunesse qui ne s'intéresse pas à la lecture. Le jeune Valentin Kamano, qui s'est prêté à notre micro, auteur du livre « Les voyageurs de l'espoir », un ouvrage qui a remporté le prix littéraire, relate dans cet ouvrage l'immigration clandestine, un fléau qui fait des centaines de morts. Grâce à ce livre, poursuivit-il, plusieurs jeunes ont abandonné l'idée des voyages clandestins. Espérons que les 72 heures du livre, qui se tiennent annuellement, réorienteront les jeunes sur la voie de la lecture. Joannita Scholastic, Conakry pour Radio Vatican.
Faisons place à présent à l'actualité sociopolitique africaine. L'Union africaine a fait part vendredi de sa préoccupation face à l'escalade des tensions entre communautés locales dans le nord de l'Éthiopie et a appelé à mettre un terme aux hostilités qui ont déplacé au moins 50 000 personnes selon l'ONU. Des affrontements armés entre des combattants des régions du Tigré et de l'Amara ont éclaté en effet les 13 et 14 avril dans la ville d'Alamata et les districts voisins de Raya Alamata, Zata et Ofla, des zones situées dans celle de Raya, revendiquées par les deux régions. Une délégation égyptienne était attendue vendredi en Israël pour tenter, selon des médias, de relancer les négociations au point mort sur une trêve entre Israël et le Hamas associée à une libération d'otages retenus dans la bande de Gaza. La guerre qui fait rage depuis le 7 octobre dans les territoires palestiniens s'accompagne d'une flambée des violences à la frontière nord d'Israël avec le Liban, où l'armée israélienne a annoncé vendredi la mort d'un civil. Dans le cadre de sa tournée ouest-africaine, le président du Conseil européen, Charles Michel, vient d'effectuer une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Reçu jeudi par Alassane Ouattara au palais présidentiel, Charles Michel et son hôte ivoirien ont évoqué plusieurs sujets d'intérêt commun, dont la lutte contre la migration irrégulière et la lutte contre le terrorisme. À Abidjan, Mohamed Lamine.
Le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du Conseil européen Charles Michel ont tout d'abord salué la vitalité de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, celle-ci étant le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. S'agissant de la migration illégale, Alassane Ouattara dit avoir exposé à Charles Michel ce que fait son pays en termes de mécanismes et de lutte en prenant le soin d'évoquer la question des faux papiers, car beaucoup de migrants illégaux qualifiés d'ivoiriens par l'Union européenne ne le seraient pas en réalité selon les autorités ivoiriennes. Tout en saluant les éclairages qui lui ont été faits à ce sujet, Charles Michel a ajouté qu'il faut rester mobilisé ensemble contre les groupes criminels, c'est-à-dire les passeurs. Quant à la lutte contre le terrorisme, Alassane Ouattara a salué le soutien d'élus et à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme que Charles Michel est allé voir à Jacquesville près d'Abidjan le premier jour de sa visite. Charles Michel a rappelé que l'UE a mobilisé ces 4 dernières années 570 millions d'euros pour les pays membres de l'initiative d'Accra contre le terrorisme. Il a par ailleurs annoncé que l'UE devrait mobiliser la semaine prochaine des fonds supplémentaires pour la Côte d'Ivoire pour l'acquisition de matériel dont des drones et des véhicules destinés à la lutte antiterroriste. Abidjan, Mohamed Lamine, Radio Vatican.
Les États-Unis vont retirer temporairement des soldats du Tchad, c'est qu'a annoncé jeudi le Pentagone quelques jours après leur accord pour retirer leurs forces du Niger voisin. Il s'agit d'une étape temporaire dans le cadre d'une révision en cours de notre coopération de sécurité qui reprendra après l'élection présidentielle du 6 mai au Tchad, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi Pat Ryder, le porte-parole du Pentagone. Notons qu'au Tchad, les États-Unis disposent d'une centaine de soldats dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel. Le clergé ivoirien sera en pèlerinage le mercredi 1er mai prochain dans le diocèse de Yamoussoukro, précisément à Abli, dans le village natal de Mgr René Kouassi, premier prêtre ivoirien, à l'occasion de son 90e anniversaire d'ordination sacerdotale. Ce pèlerinage organisé par l'Union fraternelle du clergé ivoirien, UFRACI en sigle, est une initiative voulue par la Conférence des évêques catholiques de la Côte d'Ivoire en hommage au premier prêtre ivoirien ordonné le 1er mai 1934 dans la paroisse de l'Immaculée Conception de Dabou. Les précisions du père Louis-Bernard Tébi, le président de l'UFRACI.
Tout pèlerinage est d'abord un acte spirituel. Ensuite, Abli, c'est le lieu qui a vu naître le premier prêtre ivoirien. Donc nous repartons sur ce lieu pour nous remémorer ce premier fiat des prêtres en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le premier oui dans son village natal, sachant qu'il a été ordonné le 1er mai 1934 à Immaculée Conception de Dabou. Mais nous partons dans son village pour nous replonger dans les sources d'origine de ce oui-là, pour nous rappeler que c'est là est né le premier prêtre qui a dit oui à Dieu, notre exemple. Nous partons nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint qui nous parle. C'est aussi aller là-bas où il est né pour nous donner un nouveau souffle dans la vie et le ministère du clergé, pour une vie missionnaire très engagée pour nos frères. Il est venu dans le monde, dans le village de Abli, en 1907. Et donc, nous repartons sur son lieu de naissance pour pouvoir communier avec lui et puis aller nous mettre à l'écoute. Surtout, c'est dans cette marche synodale, avec le peuple de Dieu, aller commémorer avec la famille de Mgr René, afin de développer vraiment une vraie fraternité entre nous clergés, mais un dévouement, un épanouissement total pour le peuple de Dieu.
Que savoir de la figure du premier prêtre ivoirien, Mgr René Kouassi, qui puisse inspirer le prêtre ivoirien aujourd'hui?
Pour nous, il a été un exemple qu'il y a eu à sa suite, Mgr Yago et les autres qui ont continué. Son oui a été exemple que les autres ont suivi. Mgr, les témoignages que nous avons de lui, c'est que c'était un prêtre qui était très engagé, très disponible, et il était très proche de son peuple. Et donc c'est cela que nous voulons renouveler l'esprit du clergé ivoirien, être proche du peuple et engagé dans la mission, un don de soi.
Une idée du programme de ce pèlerinage?
Quand nous allons faire la marche pèlerine jusqu'à Abli, de tout me dire à Abli, c'est autour de 3 km. Arrivé à Abli, nous allons avoir des enseignements, nous allons avoir un temps d'adoration, un temps d'animation, un temps d'écoute, des confessions individuelles pour les prêtres. Et après, nous aurons la messe solennelle. Et après la messe solennelle, nous aurons la pose de la plaque qui va rappeler les noces de granit. Mais bien avant, tout le clergé fera sa consécration à la Vierge Marie. Nous attendons autour de 750 prêtres. Tous les évêques se sont annoncés. C'est eux qui ont décidé à la 124e Assemblée plénière. Donc c'est une résolution de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire.
Qu'attendez-vous des participants à ce pèlerinage?
Nous attendons que chaque prêtre se rend disponible pour écouter la voix de l'Esprit Saint dans ce village. Pour nous, le clergé, l'abnégation totale au respect de nos engagements sacerdotaux doivent nous obliger à aller à ce pèlerinage pour pouvoir aller à cette source-là et ne jamais oublier ces sources. Savoir que Dieu est toujours dans la vie de notre histoire et notre histoire en tant que prêtre commence à la naissance de Mgr René à Abli.
Le père Louis-Bernard Tébi, président de l'Union fraternelle du clergé ivoirien, interviewé par Françoise Niamia. Refermons cette édition par l'actualité internationale de la semaine qui nous est présentée par Marie-Josée Moindo.
Commençons cette rubrique avec la prestation de serment jeudi du Conseil présidentiel de transition à Haïti. En attendant la formation des nouveaux gouvernements, Michel Patrick Boisvert a été nommé Premier ministre intérimaire en remplacement d'Ariel Henry, Jean-Charles Puzolu.
Ce conseil de transition était attendu depuis 10 semaines et avait été retardé en raison des difficultés de trouver un consensus sur les 9 membres représentant des principales forces politiques et du secteur privé. Ils vont maintenant s'atteler à une lourde tâche qui consiste à ramener le calme dans le pays gangréné par une violence devenue hors de contrôle, trouver un nouveau Premier ministre et enfin préparer une élection présidentielle. En attendant la nomination d'un nouveau chef du gouvernement, le ministre de l'économie de l'équipe dirigeante sortante assumera l'intérim. Michel Patrick Boisvert a déclaré que la crise haïtienne n'avait que trop duré et que le pays se trouvait désormais à la croisée des chemins. Vous devez conduire le pays à la paix, au redressement économique et social, à l'union sacrée et à la participation, a-t-il dit, aux membres du conseil de transition. Pour mener à bien sa mission, ce conseil aura jusqu'au 7 février 2026, date à laquelle un nouveau président devrait prêter serment. Haïti est dans une crise profonde depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Le degré de criticité a même empiré ces derniers mois avec l'expansion des bandes armées qui sèment la terreur au sein d'une population exténuée. Haïti est également au cœur des préoccupations du pape François. Le mois dernier, il invitait les responsables politiques à s'engager dans la construction d'un nouveau pays doté d'institutions solides.
Des corps ont été exhumés en 2 lieux à Gaza, à l'hôpital Al-Shifa au nord et à l'hôpital Al-Nasser, le plus grand complexe au sud de la bande de Gaza. Dans l'enceinte, à l'aide des pelleteuses, la défense civile palestinienne a récupéré des corps enveloppés dans des sacs plastiques. Jeudi 25 avril, 283 corps auraient été retrouvés selon la communication du Hamas. Les détails avec Valérie Ferrand.
Les équipes de la défense civile palestinienne ont déclaré avoir découvert 3 fosses communes dans les cours de l'hôpital Nasser, certaines sur des sites où des corps avaient déjà été enterrés provisoirement. Dans une conférence de presse, leurs représentants ont précisé que 397 corps avaient été retrouvés jusqu'ici et qu'environ 42% avaient pu être identifiés. Ils ont trouvé des corps d'enfants et d'adolescents au milieu de ceux d'adultes entassés pêle-mêle. Une dizaine des morts ont été retrouvés les mains attachés derrière le dos. D'autres portent des marques de torture. Une vingtaine des corps retrouvés appartiendraient peut-être à des personnes qui auraient été enterrées alors qu'elles respiraient encore. Les équipes de la défense civile ont également retrouvé des corps mutilés avec des organes manquants, pouvant indiquer des prélèvements d'organes selon les médecins qui ont constaté des traces de possibles opérations. Les équipes ont également découvert des corps de personnes enterrées mais qui ont été déterrés par les soldats israéliens et mis dans des sacs spéciaux qui accélèrent la décomposition avant d'être à nouveau remis en terre. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé vendredi un nouveau bilan de 34 356 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement palestinien le 7 octobre. Les manifestations se poursuivent dans des universités américaines en soutien à la Palestine, comme nous l'explique Édouard Maillet.
Après l'université de Columbia il y a une semaine, les manifestations pro-palestiniennes continuent dans les campus. La dernière, ce jeudi, à Atlanta, dans le sud-est du pays, où des manifestants ont installé des tentes dans l'université Emory. Au total, le New York Times recense une 50aine d'universités concernées, comme en Californie ou au Texas. Ces manifestations mettent à mal le déroulement académique et les enseignements. La police est intervenue dans plusieurs de ces campus. Au total, près de 400 personnes ont été arrêtées dans l'ensemble du pays. Les étudiants manifestent contre le soutien de Joe Biden à Israël, mais également contre les liens que peuvent avoir les universités avec le pays ou avec des entreprises qui ont des affaires avec l'armée israélienne. En réaction, ce lundi, Joe Biden a dénoncé des manifestations antisémites sur les campus américains, tout en condamnant également ceux qui ne comprennent pas ce qu'il se passe avec les Palestiniens. À Atlanta, Edouard Maï pour Radio Vatican.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré vendredi qu'il avait fait part à la Chine de ses inquiétudes concernant le soutien apporté à la Russie, affirmant que l'invasion de l'Ukraine serait plus difficile sans le soutien de Pékin. Élection générale en Inde, la deuxième a commencé vendredi avec des millions d'électeurs attendus dans les bureaux de vote de certaines régions du pays où sévit une chaleur caniculaire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambé qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.